Ville PM. La voix est libre.
Luc Lavoie, bonjour.
Salut Bernard.
Alors, je te connais assez maintenant pour savoir que tu vas commencer avec ce que tu considères être une bonne nouvelle.
Ouais, une bonne nouvelle, puis en même temps, un rappel que la politique, c'est parfois un sport assez cynique. Hein. Moi, j'oublierai pas qu'en septembre 2017, juste avant, là, tu sais, au moment de la rentrée, quand il n'y a pas encore beaucoup d'activités politiques, M. Legault, alors chef de la CAQ, avait convoqué une conférence de presse, puis avait annoncé, nous autres, on fait passer le seuil d'immigration de 50 à 40 000. Aucune autre explication, rien, voilà. Pourquoi 40? 40! Il aurait pu dire 38, 41, non, il a dit 40. Bon, là, ils arrivent au pouvoir, ils déposent leur projet de loi, qui fait en sorte qu'on fout à la poubelle 18 000 dossiers d'immigration. Puis là, ils niaisent, tu sais, ils niaisent. Parce qu'ils savent qu'il y a un problème, les chiffres viennent de sortir ce matin, le chômage au Québec est à 5 %. C'est incroyable, OK? Oui. Alors, on a besoin de main-d'œuvre. Alors, ils n'ont jamais dit comment ils se rendraient à leurs 40 000. Ils n'ont surtout jamais dit pourquoi il fallait se rendre à 40 000.
Ben oui, ils l'ont dit, ça.
Ben non, ils ne l'ont pas dit. On va en prendre moins, on va en prendre soin. T'sais, Honnêtement, je trouvais que ça faisait un peu ticoun comme affaire.
Et là, ouais, mais là, dis pas que... Là-dessus, on a un désaccord, là, ça ne sera pas la première fois. Mais je suis d'accord avec toi qu'ils n'ont jamais dit pourquoi c'est 40 et pourquoi pas 42 ou 38. Je suis d'accord avec toi. Mais la baisse... Ça, ils ont bien dit. Pourquoi? Ils ont dit on veut en prendre moins parce qu'on veut mieux les intégrer puis on veut mieux les franciser. Ça, tu peux pas dire qu'ils l'ont pas dit.
Oui, mais c'est de la foutaise. Puis on le sait.
Tu peux dire que c'est de la foutaise, mais tu peux pas dire qu'ils l'ont pas dit.
La vérité, c'est qu'ils viennent annoncer. Ce matin, dans les documents du gouvernement, on apprend qu'en 2020, 2021, 2022, on va avoir atteint exactement les mêmes cibles que les libéraux proposaient dans l'ancien gouvernement.
Oui, alors, mais ils disent que d'ici là, ils vont avoir mis en place des programmes pour mieux les intégrer puis mieux les franciser. Ça, tu peux pas dire que c'est pas un objectif légitime. Tu peux trouver que c'est
parce qu'on l'a entendu souvent cet objectif-là. Premièrement, puis deuxièmement, je pense que la vague migratoire qui s'est déroulée au cours des mettons 15 dernières années est beaucoup plus francophone qu'elle l'a jamais été. Alors, tu sais, cette histoire-là, là, on repassera. On faisait ça, cette...
Ouais,
tu sais, je me rappelle très bien, Bernard.
Il y en a beaucoup. Luc, il y en a beaucoup.
Très bien.
Il y en a beaucoup qui arrivent au Québec, qui ne parlent pas français, qui prennent pas de francisation, de cours de francisation, ou qui les abandonnent, ou qui les passent jamais.
Oui, mais il y en a pas
tant.
Tu peux
pas nier ça, là.
Okay?
Tu peux pas nier ça.
Ben non, mais il y a une amélioration, ça non plus, tu peux pas nier ça. La question n'est pas là. La question, c'est pourquoi il avait annoncé ça? Et là, ça me rappelait, là, dans ma jeunesse, là, mon père, qui un Rimousquois, là, lui, là, qui a venu à Montréal parce que son travail l'amenait souvent à Montréal. Là, il y a bien trop d'importés. Ils volent nos jobs.
Wow.
Non, mais c'est là. J'ai grandi avec ça autour de moi. Puis voilà. Puis là, si tu veux, c'est parce que je trouve que c'est de la démagogie, ce genre d'affaires-là.
Mais là, c'est toi qui en fais de la démagogie, Luc.
Non, je fais pas de démagogie. Moi, je te raconte que le gouvernement...
Il n'y a jamais été question.
La CAQ, là, quand ils sont avancés sur ce terrain-là, à un moment donné, il y a des journalistes, les petits malcommodes, qui ont commencé à poser des questions. Puis votre test, comment ça s'appelait déjà, là?
Le test des valeurs.
Ah, mon Dieu Seigneur. Oui. Ils ont volé un mot qui venait de ton temps, là, Bernard.
Oui.
Au lieu d'appeler ça la charte, ils ont appelé ça le test. Oui. Alors, il y a un test des valeurs. Puis il y a ci, puis toutes sortes de bébelles.
Oui, mais là, mélange pas les affaires.
Bernard, c'est juste
affaires.
Pour amuser la galerie. C'est pour amener le petit électorat.
Non. Moi, Luc, je trouve que tu prends... Mettons, tu coupes les coins ronds un petit peu, là. Tu coupes les coins ronds un petit peu. Tu peux être en désaccord avec la baisse des seuils. Ça se défend très bien.
Je le suis, totalement.
Ça, on a compris. Maintenant, qu'ils veuillent les baisser temporairement pour mieux mettre en place des structures qui vont faire en sorte, notamment, que l'immigration va se régionaliser. Tu sais, ça fait des années qu'on dit l'immigration,
oui,
là, ça serait bien qu'elle aille dans les régions. Sais-tu quoi? C'est un échec patent depuis 40-50 ans. OK? Alors là, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. T'as un gouvernement qui dit on va mettre en place des structures, notamment pour faire en sorte que quand ils arrivent, ils s'en aillent directement dans l'usine où on les attend, que ce soit en Beauce, à Rimouski, en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, mais c'est ça le nouveau système qu'ils veulent mettre en place. Ils disent, donnez-nous le temps de le mettre en place, comme ça on va mieux réussir l'immigration. Ben, tu peux trouver ça niaiseux, mais tu peux pas dire que c'est pas une bonne raison.
Non, ça m'apparaît...
Tu peux pas dire que c'est pas une bonne raison.
Ça m'apparaît un amalgame, en fait, de concepts. Avoir davantage d'immigration dans les régions, ça m'apparaît très, très important.
Ben oui, mais ça
marche rien
pas.
À voir avec la réduction du seuil du nombre des immigrants. Ben, tu sais, Bernard,
comment
t'es un politicien, tu as fait de la politique, tu as couvert la politique, en politique.
Oui.
Ils ont fait ça parce que ça faisait plaisir à un certain électorat. Et ils savaient très bien que ça n'a pas de bon sens. Quand t'as un taux de chômage qui est rendu à 5 % tu réduis pas les seuils d'immigration, puis tu vas pas faire ça pour alimenter un paquet de petits préjugés puis de bébelles. C'est tout.
C'est aussi simple que ça de ma part.
Parce
que toi, tu mets ça strictement sur le dos d'un calcul politique.
C'est clair que c'était ça. Quand tu t'es fait poser des questions en campagne électorale, il savait même pas de quoi il parlait, Legault. Il avait failli perdre l'élection, tu t'en souviens, à un moment donné.
Mais le momentum avait tourné de bord. Sur le test des valeurs.
Sur le test des valeurs, il savait même pas combien ça prenait de temps avant de devenir citoyen canadien.
Mais c'était toute l'histoire autour du test des valeurs. Et il a effectivement failli perdre l'élection là-dessus.
Ben.
D'ailleurs, il s'est excusé d'avoir été. Ouais, mais c'est parce que tu mélanges deux affaires. Le test des valeurs, moi, j'y crois pas plus que toi. Okay?
Bon, je le sais, mais, tu me l'as déjà dit.
La baisse des seuils d'immigration, moi, ce que je dis depuis le début, c'est que c'est pas déraisonnable de proposer qu'on en accepte moins, mais qu'on s'assure de mettre en place les structures pour qu'ils soient mieux intégrés, pour qu'on soit capable de s'assurer notamment, parce que c'est ça le Christi de problème, qu'on les sélectionne en fonction des besoins qu'on a comme main d'œuvre, alors que ça fait des années qu'on sélectionne les immigrants en fonction essentiellement de deux critères. Premièrement, les diplômes, qui une fois qu'ils sont arrivés ici, ne sont pas reconnus, donc la formation scolaire qu'ils ont, et deuxièmement, le français. Alors que la vérificatrice générale a produit tout un rapport dans lequel elle disait « C'est bien beau ces deux critères-là, là, mais le problème, c'est que le monde qu'on fait venir, ils sont pas adaptés aux besoins, aux jobs qu'on a de disponibles pour eux. » Et c'est ça que Jolin Barrette veut changer. C'est quoi le Christi de problème avec ça?
Ben, le Christi de problème, Bernard, c'est que la meilleure façon d'intégrer des immigrants, c'est qu'ils arrivent ici puis qu'ils aient un job. Ça
ben
donne
oui.
bien.
Mais c'est
Il y a
ça
des pancartes
changer.
Partout, à Montréal, partout. On nous embauchons. Ils font même un party. J'ai vu un party là, qui s'organise à Montréal la semaine prochaine, là, où ils essayent de convaincre du monde de devenir waiter, puis de serveur, puis serveuse, puis ainsi de suite. Écoute bien, là, je trouve que c'est eux qui se sont amusés à mélanger les concepts. En bout de ligne, je pourrais dire que c'est une bonne nouvelle. Ils viennent de voir la lumière. Et moi, ce que je trouve particulièrement amusant, c'est que M. Legault,
oui.
peu de temps après son élection, et là, je nommerai pas la personne, mais crois-moi, là, c'était quelqu'un de très crédible qui avait ses entrées auprès de M. Legault, il avait dit, mais ça n'a pas de bon sens, ton affaire d'immigration. Il avait dit, fais-toi-en pas. Au bout d'un an, là, ça ne sera plus là. Là
mais ils l'ont dit, ce publiquement.
Ils ont dit publiquement. Les fameuses structures dont tu parles sont-elles en train d'être mises en place? Je les ai pas vues.
Le projet de loi numéro 9, là, donc, qui est devant le Parlement présentement, vise à faire en sorte que dorénavant, les entrepreneurs vont pouvoir aller directement dans le bassin de candidats à l'immigration, OK? Et vont pouvoir dire, garde, j'ai besoin d'un soudeur. Justement, il y en a un soudeur, mais c'est pas le premier sur la liste. Actuellement, là, t'es obligé de choisir en fonction de l'ordre dans lequel ils ont appliqué. Alors, le prix à payer pour mettre en place le nouveau système, puis je le déplore, mais je pense malheureusement que c'est un prix nécessaire, c'est de prendre les 18 000 candidatures et de les mettre de côté et de recommencer avec un nouveau système où le soudeur, s'il est 18e ou 118e sur la liste, c'est lui que je veux dans mon entreprise. Je veux pas être pris pour prendre le premier ou le deuxième. Je veux prendre le soudeur dont j'ai besoin. Ils veulent mettre ça en place. Tu peux pas les blâmer.
Si tu continues, là, Jolin Barrette va t'appeler pour te demander de devenir son porte-parole.
Bon,
Je trouve que c'est un gouvernement...
Ce que tu viens de dire là, c'est cheap, parce que je pourrais te répondre que tu es un merveilleux porte-parole pour le Parti libéral, mais je le dirais pas parce que j'ai trop de respect pour ton intelligence.
Je trouve ça niaiseux,
le commentaire que tu viens de faire.
S'il vous plaît.
Alors, moi, je t'explique...
J'ai trouvé que tu étais dans un élan qui était passablement enthousiaste.
Ben oui, mais je l'explique le problème. J'explique le problème.
Ça prouve que tu es un excellent communicateur. Pourquoi tu prends pas mes compliments pour ce qu'ils sont?
J'exprime une position, Luc, qui est différente de la tienne. Et je le vois dans les commentaires que je reçois, il y a du monde qui sont d'accord avec toi, puis il y a du monde qui sont d'accord avec moi. Et c'est très bien ainsi, c'est à ça qu'a sert notre discussion. Mais ce que je débarque un peu, puis je deviens un peu impatient par moment, c'est que j'ai l'impression que si c'est pas ta position, c'est une position qui est pas légitime. C'est pas vrai, Luc. Sur ces débats-là, souvent, il y a plus qu'une bonne position.
Ouais. En tout cas, moi, je trouve que...
En tout cas, t'es content, là, parce que Jolin Barrette, il dit qu'à partir de 2022, il va avoir 51 000 immigrants.
Oui.
Fait que...
C'est dans ce sens-là. C'est pas que c'est une bonne nouvelle, c'est juste que c'est une démonstration de ce que c'est du niaisage en politique. C'est tout.
Bon, OK. Visiblement, c'est pas aujourd'hui qu'on va s'entendre là-dessus.
Non!
Alors, mais c'est très bien ainsi. J'ai pas de problème avec
bon,
ça.
On n'est pas si pire. Il y a des sujets où c'est pire, mais celui-là, on a des bouts qu'on est d'accord, mais il y a des bouts...
Moi, la petite
politique de bas de gamme, j'aime pas bien ça.
Oui, on a compris ça. Alors, on va s'arrêter. Parce qu'au retour, tu vas nous parler d'un nouveau premier ministre. Nouveau, parce que ça fait quand même juste un an qu'il est là.
Exactement un an. Ouais.
Mais le problème, c'est qu'il a pris une méchante débarque. Je vous parle du premier ministre de l'Ontario. Puis, je vais vous dire une affaire. C'est l'Ontario, mais en quelque part, ça va avoir un impact très important sur la prochaine élection fédérale. On va vous en faire la démonstration après la pause.
Drainville PM. La voix est libre.
On va vous parler maintenant de Doug Ford, qui est en chute libre dans les sondages, Luc. Et l'une des... Alors, ils ont décidé d'ajourner la législature ontarienne jusqu'à après la prochaine élection fédérale. Ça s'est jamais produit qu'ils arrêtent pendant presque 5 mois en Ontario. Et l'une des hypothèses les plus... vraisemblable et plus crédible, c'est que Ford a décidé d'ajourner son parlement parce que les conservateurs à Ottawa, ils ont dit là, faut que tu disparaisses du trafic, t'es devenu tellement impopulaire, Ford, que tu vas nuire à nos chances aux élections fédérales, Luc.
Ah, celle-là, je l'avais pas entendue, mais je peux comprendre que ça doit parfois provoquer ce genre de réaction. Après tout, il a été élu avec 40 % des intentions de vote, puis là, mm-hmm. le taux d'approbation est à 20 %, ce qui est moins que Mme Wynne, celle qui l'a battue à plate couture aux élections, et qui était à la fin essentiellement méprisée. Là. Ben, oui. Il est à peu près au même niveau qu'elle.
Exact.
Alors, il y a quelque chose, en un an, il faut le faire. Hein. C'est une dure chute. Et là, bien évidemment... C'est quoi la réalité de l'Ontario? C'est que c'est un gouvernement, quand il est arrivé aux commandes, c'est un gouvernement qui devait gérer un déficit annuel de 15 milliards de dollars.
Mm-mm.
Alors, il a décidé de prendre la scie mécanique puis de couper, un peu à l'aveugle, diront certains.
Exact.
Évidemment, ceux qui sont victimes des coupures disent que c'est à l'aveugle. Je ne sais pas comment faire l'évaluation de ça, mais on doit admettre au départ qu'il y avait un problème. Là. Tu ne peux pas vivre avec un déficit de 15 milliards dans une province comme l'Ontario pendant très, très longtemps.
Mm-hmm.
Il y a
mm-hmm.
ça. Et en fait, ça a fini par... je me reprends. C'est toujours comme ça que ça se fait. Quand tu arrives avec un gouvernement qui a décidé qu'il allait faire un bon ménage, là, c'est arrivé à Ralph Klein en Alberta dans son temps, Mike Harris en Ontario en son temps, il se dépêche de tout faire la première année, les 18 premiers mois, pour qu'on puisse voir des résultats tangibles des gestes qu'ils ont posés, une accélération de l'économie, par exemple, la possibilité de dégager certaines marges de manœuvre pour aller se lancer dans des projets absolument nécessaires.
Quatre ans plus tard, quand arrive l'élection, oui, c'est ça.
C'est ça. Alors, c'est probablement ça qu'il est en train de faire. Par ailleurs, il y a un style un peu particulier, tu comprends? Il n'y a rien à voir avec ses prédécesseurs qui ont été à la tête de la province de l'Ontario. C'est un populiste à la Donald Trump.
Sauf que lui, il est pro-immigration.
Voilà, lui, il est non seulement pro-immigration, Bernard, mais tu sais, j'ai vécu un temps à Toronto, là, dans le temps que Rob Ford était le maire, son frère, et j'ai connu Doug Ford un peu, et c'est non seulement un gars qui n'est pas anti-immigration, mais ce qui lui reste d'appui vient probablement des immigrants. Il est adoré par les immigrants.
Exact.
Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans les banlieues de Toronto. Enfin, il y a presque juste ça. Alors, il n'y a pas ce côté-là de Trump chez lui du tout. Sauf qu'il y a le côté rough and tough, tu sais, comme on disait, là. Lui, il est arrivé, puis on fait des compressions. Alors, il a retiré 1 milliard juste à la santé d'un coup, là, tu sais. Et là, évidemment...
Mais il est obligé, par contre, de reculer sur certaines des compressions qu'il a faites. Et ça, ça ne l'a pas aidé parce qu'il a eu l'air du gars qui coupait, mais qui finalement avait pas de plan de match, puis était obligé même de remettre en place certaines des mesures qu'il avait annoncées. Il a eu l'air un peu amateur, un peu improvisateur.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. S'il y a un reproche qu'on lui fait à peu près de tous les coins du spectre politique, c'est qu'il a l'air d'improviser. Il a l'air d'un gars, je sais pas comment ça s'est fait exactement, mais il a l'air d'un gars qui est arrivé puis qui a dit on coupe là. Puis donnez-moi une scie mécanique, je vais couper moi-même si vous n'êtes pas capable.
Non, puis il a coupé l'aide aux enfants autistes.
Ben oui, c'est ça, mais tu vois, dans le milliard qu'il a coupé à la santé, ce qui a fait lever le plus les gens parce qu'on les trouvait des deux côtés du spectre politique, à droite comme à gauche, c'est cette mesure qui touchait les enfants autistes. C'était pas nécessaire.
Il a eu l'air d'un sans-cœur, effectivement.
Mais
puis là, je peux te dire,
sauf que ceux qui le donnent pour battu à la prochaine élection, ils ont...
Non, moi je suis pas là-dedans. Ce que je t'annonce par contre, puis la gang à Trudeau m'en parle, ils vont tout faire. Justin Trudeau et les libéraux à Ottawa vont tout faire dans les prochaines semaines là, puis dans les prochains mois pour coller Andrew Scheer, le chef des conservateurs, Doug Ford, en disant, si vous élisez Scheer aux prochaines élections, vous élisez Doug Ford à Ottawa avec les compressions qui viennent avec.
Tu as tout à fait raison, et j'irais plus loin. Les libéraux, ce qu'ils vont faire, c'est que les libéraux fédéraux, j'entends, pour l'élection, ils vont regarder, à mesure qu'on va approcher de la date, ils vont se dire, bon, là, il y a 40 % des gens qui ont voté pour lui. Il y en a donc 60 qui n'ont pas voté pour lui. Qu'ont-ils en commun? Puis c'est là qu'on va découvrir que c'est des gens plus progressistes, plus ceci, plus cela. Il va finir par faire ouvertement, je parle de Justin Trudeau, campagne contre Doug Ford. Ça va arriver au point, il va dire, si vous votez pour moi, vous allez avoir tel type d'affaires. Puis si vous votez pour l'autre, vous allez avoir la même patente que Doug Ford. Ça revient au même que ce que tu dis, mais ça va être une campagne ouverte contre le premier ministre d'une province. Oui. Son véritable ennemi ne sera pas Scheer, ça va être Ford.
Et Ford court après, parce que Ford fait campagne contre Trudeau depuis qu'il est premier ministre.
Très ouvertement.
Et même avant.
Puis en plus, il s'est fait des ennemis partout. Là. Par exemple, son prédécesseur à la tête du Parti conservateur, John Tory, que je connais très, très bien personnellement. John, qui est le maire de Toronto maintenant, il a été chef du Parti conservateur. Écoute, il mène une guerre à John Tory puis à l'administration municipale qui est difficile à comprendre, vraiment. Je ne sais pas pourquoi. C'est un côté qui correspond un peu à Donald Trump. Comment se faire des ennemis inutiles? Pourquoi, tu sais, en politique, quand tu n'as pas besoin de te faire un ennemi, pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui te prend?
En tout cas, il a été très bon pour ça, parce qu'il s'en est fait énormément d'ennemis. Il est tombé à 20-quelques % d'un sondage. C'est absolument catastrophique. Libéraux qui n'ont pas de chef, qui se sont fait mettre à la porte il y a un an, les libéraux sont en avance, sont premiers d'un sondage, ils n'ont même pas de chef. C'est l'enfer. En tout cas,
Ils sont premiers, mais ils n'ont pas de chef. Attends qu'il y en ait un, ils vont peut-être prendre une débat.
Ça dépend de qui ils vont mettre là, en effet. Je te souhaite un bon week-end, Luc.
Bon week-end, maintenant.
On continue, hein, on ne lâche pas, là, parce qu'on s'arrête. Mais au retour, c'est Christian Page qui revient sur cette discussion qu'on a eue la semaine passée. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Les triangles, là, les trois points lumineux, là. Il y a un paquet de monde qui ont vu ça. Ils sont convaincus que c'est des ovnis. Christian revient là-dessus après la pause.